RTL cette semaine. On refait le match, on se retrouve dans un instant. Pour l'instant, c'est l'heure des infos.
On refait le match avec Philippe Sansfourche. Le bon dimanche chaud.
Bonjour, je suis Bruno Guillon et demain, dans le bon dimanche chaud, je reçois l'auteur à succès Joël Dicker. Et comme tout bon Suisse, il a su rester neutre.
Les autres écrivains, ils sont mieux en Suisse ou en France ?
Ils sont bien partout, je veux pas d'emmerde, Bruno Guillon.
C'est bien d'être neutre aussi. À demain.
Demain, dès 14h sur RTL, Joël Dicker est l'invité du bon dimanche chaud, présenté par Bruno Guillon.
Visio Confucius, tu vois ? Toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Il est 20h. Avant le retour du foot, et dont on refait le match, les informations avec vous, Pierre Collat, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Emmanuel Macron prêt à ouvrir un débat sur une défense européenne incluant l'arme nucléaire. Le président de la République donne une interview dans les journaux du groupe Ebra. Vous le retrouverez dans les pages du Bien Public, des DNA ou encore de Vosges Matin. En parlant de l'arme nucléaire, le président précise que la doctrine française est qu'on peut l'utiliser quand nos intérêts vitaux sont menacés. Il y a une dimension européenne dans ces intérêts vitaux. Voilà ce que dit Emmanuel Macron ce soir, qui avait déjà plaidé jeudi pour une Europe de la défense crédible lors d'un discours à la Sorbonne. Emmanuel Macron qui devrait rencontrer les syndicats agricoles jeudi prochain. Selon les informations de RTL, le gouvernement a dévoilé de nouvelles mesures envers les agriculteurs ce matin. Nouvelles aides à la trésorerie, détail du plan pour réduire les pesticides et des aides contre la sécheresse dans 3 départements du Sud, dont l'Aude. Écoutez Frédéric Rouanet, il est président du syndicat des vignerons. Pour lui, le compte n'y est pas.
Un sentiment un peu de satisfaction parce que ça fait des mois et des mois qu'on martèle, qu'on rabâche, que la situation dans le département de l'Aude est très grave puisqu'il a, il a moins plu à Fitou par exemple qu'en Israël ou que dans le désert du Sahara ces 20 derniers mois. Après, la somme, elle me paraît très faible, mais déjà, voilà, on a mis un pied, on a ouvert la porte, quoi, on va dire. Là, le gros travail, il est de mettre des projets d'irrigation en place qui coûtent extrêmement cher parce que c'est des travaux, il faut aller chercher de l'eau à des endroits pour l'amener à un autre endroit. Donc c'est des projets qui coûtent extrêmement cher. Aujourd'hui, l'urgence, elle est là.
Frédéric Rouanet, joint par Patrick Hisson pour RTL. Le Hamas publie une nouvelle vidéo montrant 2 otages israéliens, 2 otages enlevés le 7 octobre dernier. Une vidéo publiée alors que les négociations sont en cours pour une trêve entre le Hamas et Israël. Des discussions sous médiation égyptienne et qatari pour un cessez-le-feu en échange de la libération d'otages. Le sport avec la déception du 15 de France féminin de rugby qui perd face à l'Angleterre 42-21. C'est donc les Anglaises qui remportent le tournoi destination cette année. C'est la 13e défaite d'affilée pour les Françaises face à l'Angleterre. Devant plus de 28 000 spectateurs, plus grosse affluence pour un match de rugby féminin en France. En top 14, le Stade Toulousain l'emporte nettement contre le Racing 92, 32-12. Bordeaux-Bègles est allé l'emporter sur la pelouse de Bayonne, 34-15. Et ce soir, Clermont reçoit le Stade Français à 21h05. Attention aux orages ce soir. 8 départements du Sud-Ouest sont placés en vigilance orange par Météo France, de la Charente au Gers. Demain, le temps restera très orageux du Languedoc à la région lyonnaise et à l'Alsace. Des pluies sur le reste du bassin méditerranéen. Les températures demain matin, 8 degrés à Brest, 9 à Gap, 11 à Strasbourg et Lille, 13 à Ajaccio, 14 à Avignon. Les courses, demain c'est à Longchamp. Écoutez les préférés de Dominique Cordier. Le 9, le 5, le 12, le 11, le 4, le 8 et le 2. Notez bien l'outsider de RTL, c'est le 11 Tumblr. 20h03 sur RTL. On continue de refaire le match avec vous, Philippe Sansfourche.
Information signée Pierre Collat. Merci beaucoup. On refait le match dans un instant.
RTL. Suivez votre soirée foot sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL.
Vivez un moment hors du temps et ressourcez-vous au domaine de Chaumont-sur-Loire. Découvrez plus de 30 créations remarquables réalisées dans le cadre du Festival international des jardins. Chaque jardin propose une promenade unique autour du thème Jardin source de vie. Retrouvez le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire jusqu'au 3 novembre avec RTL.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
RTL.
On refait le match. Les débats flash.
Le match, les débats flash, comme chaque samedi à 20h, toujours avec Gilles Verdez, toujours avec Deva Padou, toujours avec Florian Gazan et avec l'apport suprême exceptionnel de l'icône de, dont on fait le match sur RTL Foot.
Toujours plus.
Rien que ça. Karine Galli qui nous rejoint.
Bonsoir.
On n'a pas eu le droit à ça, nous. Hein.
Non, j'aime beaucoup cette présentation. C'était un peu hésitant parfois pour trouver les mots justes, mais j'aime beaucoup.
Et... c'est l'émotion, c'est l'émotion.
Voilà. Quand on est dans il manquait la fanfare, je trouve.
la crainte. On va donc attaquer les débats flash dans un instant. Avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit crochet très rapide par le Parc des Princes où on va retrouver Baptiste Durieux qui va nous faire vivre la rencontre ce soir entre le PSG et le Havre. Baptiste, on a beaucoup débattu autour de la possible compo de Luis Enrique ce soir. Est-ce qu'il fait totalement tourner ou est-ce qu'il va quand même faire monter des cadres en puissance ?
Non, il y a une alternance qui est assez intelligente puisqu'il n'y a jamais d'équipe B, il y a toujours des cadres, des titulaires évidemment en puissance qui font partie de ce 11.
Il nous fait le discours de l'adjoint là.
Exactement. L'information principale, c'est quand même la non-titularisation de Kylian Mbappé qui sera donc sur le banc pour cette rencontre. Lui qui a été titulaire cette semaine à Lorient et qui a brillé. Par contre, Ousmane Dembélé, lui aussi titulaire en Bretagne cette semaine, fait bien partie du 11. Navas sera dans les buts, Achraf Hakimi avec Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Beraldo en défense, un milieu de terrain avec le retour de Warren Zaïre-Emery et Vitinha qui était absent du groupe cette semaine. Et puis en attaque, ce sera donc Ousmane Dembélé, comme je le disais, Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola pour animer les offensives parisiennes. À noter que Donnarumma, Nuno Mendes, Lucas Hernandez et Fabian Ruiz ne sont tout simplement pas dans le groupe, évidemment préservé avant la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Dortmund.
Merci beaucoup Baptiste Durieux qu'on retrouvera donc au commentaire ce soir en direct en intégralité de ce Paris Saint-Germain Le Havre. Les débats flash, donc on attaque avec le premier de la soirée. Il concerne l'arbitrage français et Stéphanie Frappard qui est donc notre représentante tricolore qui n'a pas été retenue donc ni pour les Jeux Olympiques ni pour l'Euro alors qu'elle était présente sur les deux dernières éditions de ces compétitions. Donc de l'avis général, elle réalise une saison un peu en deçà de ce qu'elle a fait par le passé, donc c'est pas sur son niveau là qu'on va débattre. On va parler surtout du fait qu'elle représente quasiment à elle seule l'arbitrage féminin, au plus haut niveau européen, hein, pas seulement français. Du coup, il y aura par exemple aucune femme à l'Euro cet été, alors que on parle justement d'une compétition qui va de l'avant, que les Allemands mettent en lumière le fait qu'ils sont progressistes à la fois sur le plan du jeu, mais sur le plan aussi sociétal avec leur football. L'UEFA a-t-elle fait une erreur ? Aurait-il fallu la repêcher, Stéphanie Frappard, pour soutenir l'arbitrage féminin ? Karine Galli, vous avez 45 secondes.
Ben non, l'UEFA n'a pas fait d'erreur. Et depuis quand on soutient l'arbitrage français ? On soutient l'arbitrage des femmes, l'arbitrage des hommes ? Non, on soutient l'arbitrage qui est bon, qui est effectivement capable d'arbitrer au plus haut niveau, c'est-à-dire lors d'un euro. Et je suis désolée, Stéphanie Frappard, malheureusement, a enchaîné les prestations moyennes, voire mauvaises. Et c'est pas parce que c'est une femme que ça doit la dédouaner de ses erreurs. Et les explications de Monsieur Borghini sont pitoyables. Quand il dit le fait de ne pas la retenir et encore plus de ne pas prendre de femmes comme arbitre central est un réel mauvais signal. Non, ce n'est pas un gage de réussite et de compétence d'être une femme comme d'être un homme. Le but, c'est d'être bon, homme ou femme, peu importe. Stéphanie Frappard, à mes yeux, a été logiquement écartée de la liste.
Très bien. Le petit coup de sifflet final, Karine Galli qui a parfaitement respecté les 45 secondes, c'est important. Monsieur Borghini, on rappelle, qui est le responsable à la fédération de toute la section...
président de la commission fédérale des arbitres, voilà. Qui n'en rate pas une, parce qu'il a également fait une sortie sur Monsieur Pignard en le pointant bien du doigt, etc. Enfin bon, il n'y a rien qui va dans ses déclarations.
qui n'a pas été non plus exempt de tout reproche.
Oui, bon, enfin bon, c'est pas parce qu'on est mauvais sur un match qu'on doit être sanctionné le coup d'après pour faire plaisir à la masse.
Très bien. Donc revenons à nos moutons. Donc pour Karine Galli, il n'y a pas raison d'outrepasser finalement les jugements purement sportifs. Stéphanie Frappard est logiquement écartée de l'Euro et des JO. Est-ce que Karine vous a convaincu? Tour de table rapide, oui ou non?
Totalement.
C'est un oui pour Florent Gazan.
Encore plus que ça.
Donc c'est d'ores et déjà une victoire. Gilles Verdez, est-ce que c'est le grand chelem ou pas?
Non, c'est une honte, c'est une injure faite aux femmes. C'est du pur sexisme.
Non, Gilles, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Très bien, donc on va tout de suite pencher sur le contre-argument de Gilles Verdez.
J'ai hâte de l'entendre.
Tous les arbitres sont mauvais. Tous les arbitres français sont nuls, ok. Et Madame Frappard, elle n'est pas plus mauvaise et pas plus nulle que les autres. Si on la prend pas, c'est parce qu'elle gêne, parce que certains dirigeants puissants du football se sont élevés contre elle. Je sais pas, des petits clubs, des moyens clubs, des grands clubs. Elle aurait fait quelques erreurs sur quelques matchs. Tous les arbitres en font partout dans le monde. Il y a que ça en ce moment. Ils sont paniqués avec la VAR absurde. Ils savent plus ce qu'ils font. Mais elle, on la sanctionne parce que c'est une femme, parce qu'elle a toujours dérangé, parce qu'elle n'a jamais été acceptée. On la sanctionne en France et maintenant l'UEFA la sanctionne. C'est une honte. Moi, Madame Frappard, je la décorerai de toutes les médailles de l'arbitrage mondial.
Et Gilles,
je vais arbitrer la finale.
Gilles, bon, très bien. Toi, le grand pourfendeur du sexisme, tu peux m'expliquer pourquoi Stéphanie Frappard faisait toutes les autres compétitions avant et qu'elle la fait pas, peut-être parce qu'elle était bonne avant et qu'elle est pas bonne maintenant?
Parce qu'il y a un lobby contre elle. Vous savez,
il y a aucun lobby.
Il y a un lobby français. Du coup, Monsieur Rossetti, qui est pas non plus le chantre de l'égalité homme-femme absolue, il s'est dit qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, il l'a sanctionné. Si en France, on en faisait un arbitre comme les autres arbitres respectés, etc., les instances mondiales ne regarderaient pas d'un œil suspicieux Madame Frappard.
Mais justement, il faut regarder comment elle arbitre, c'est bien ça le problème.
Elle arbitre mal, et d'ailleurs... Pourquoi
arbitre mal?
Mais oui, mais c'est pas une raison. Ah. Ça c'est le mauvais côté du sexisme. C'est une femme, donc même si elle est, donc si elle est mauvaise, on lui pardonne. Bah non, justement, l'égalité des sexes, c'est juger les femmes et les hommes suivant exactement les mêmes critères. Si elle est pas bonne, eh ben elle est pas bonne. Alors,
et puis il faut bien rappeler.
Et les autres pays, ils ont le droit aussi d'avoir des arbitres féminins. D'ailleurs, pourquoi Madame Frappard doit être le symbole?
Il faut bien rappeler une chose, c'est que et pourtant je suis pas un fan de la première heure, mais en tout cas sur les compétitions européennes, Monsieur Turpin et Monsieur Le Texier ont été bons, voire très bons. Et ça compte. C'est ça d'ailleurs qu'ils prennent en compte d'ailleurs à l'UEFA, c'est qu'ils ont été convaincus. D'ailleurs, ils sont encore très bien placés pour les compétitions européennes. Donc voilà, pour moi le vrai féminisme, c'est de considérer les femmes et de les traiter à l'égal d'un homme, mais pas d'essayer de tenter une équité faussée.
Il ne s'agit pas de tenter une équité. Il s'agit encore une fois de faire survivre la présence d'une femme parmi l'ensemble des arbitres.
Oui, mais devrait y en avoir d'autres.
Juste pour clore le débat, on est tous d'accord, elle fait pas une bonne saison, mais comme beaucoup d'arbitres,
c'est bien que vous le disiez,
Gilles Verdez. En revanche, elle a une expérience des matchs internationaux qui aurait peut-être pu quand même faire qu'on lui accorde un tout petit peu de crédit sur ce type de compétition. Or là, elle a sauté comme un pop-corn à la première incartade.
On développe le foot féminin. On fait des congrès pour développer l'arbitrage féminin. On l'envoie à Madame Frappard partout en France pour faire ce qui d'ailleurs la perturbe pour sa concentration. Partout pour expliquer ce qu'elle fait. Et en récompense, boum, on la sanctionne.
Elle est bien sensible. Donc elle fait un ou deux colloques.
Mais on l'utilise comme symbole. Et le jour du grand symbole, boum, on la dégage.
Oui.
Ça va pas.
Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que en ce moment, elle est dans une position où elle est fragilisée par juste des arbitrages de Ligue 1. Et vous voulez aller envoyer la finale de l'Euro.
Pas des arbitrages de Ligue 1. On l'envoie pour faire la démonstration.
Oui, c'est ce que je dis. Mais là, vous êtes en train de dire que cette espèce de tourner des popotes et en train de la déstabiliser pour son arbitrage en Ligue 1. Mais qu'est-ce que ce sera à l'Euro alors?
Où la préparation, où la pression sera 10 fois plus. Problème. Elle devrait, si tu le dis, refuser toutes ses sollicitations et se concentrer sur son arbitrage, parce que malheureusement, son arbitrage cette année, globalement, il a été défaillant. Et je me fous qu'elle s'appelle Stéphanie Frappard ou qu'elle s'appelle Roger Frappard. La réalité, c'est que l'arbitrage qui est fait par Stéphanie Frappard aujourd'hui est quand même sujet à débat très très souvent. Et c'est pas un match raté. C'est beaucoup plus.
Bon, on espère en tout cas qu'elle va...
Elle va rebondir aussi, c'est une bonne arbitre.
Et retrouver le niveau qui était le sien, parce qu'effectivement, elle est leader, et c'est elle justement qui tient à bout de bras ses arbitres en Europe, parce que malheureusement, dans les autres pays, on voit qu'il y a assez peu de femmes qui émergent, en tout cas, au plus haut niveau. Deuxième débat flash, on accélère un peu à 20h14 sur RTL. On va aller en Allemagne, on va y retourner. Le président de Leverkusen, donc donc tout frais champion d'Allemagne, hein, l'équipe, on va dire, qui explose cette saison en Bundesliga, qui est toujours en course en Ligue Europa, on l'a dit. Donc le président de Leverkusen a d'abord fixé un prix, 150 millions d'euros pour sa pépite Florian Wirtz, avant de se raviser finalement. Il a dit non, en fait, c'est pas 150 millions, il est totalement intransférable. Ce garçon de 20 ans, que toute l'Europe est en train de regarder avec les yeux de l'amour, va probablement rester à Leverkusen. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Dave Apadou, en 45 secondes, oui ou non, que Florian Wirtz est le meilleur milieu offensif d'Europe?
Je suis tombé amoureux de Florian Wirtz pour avoir eu la chance de commenter sa première sélection. Et à partir de là, je me suis dit que c'était peut-être le joueur le plus talentueux d'Allemagne devant Musiala, mais peut-être même d'Europe. Maintenant, de quoi on parle? On parle de votre question, elle suppose qu'il soit capable de supporter la pression d'un grand transfert comme Jude Bellingham, qui est en train de l'assumer dans le club le plus exposé au monde, le Real Madrid, d'avoir les clés de l'équipe la meilleure au monde depuis des années comme Kevin De Bruyne, ou d'être omnipotent, par exemple, comme un Antoine Griezmann. Il n'en est pas là du tout. On parle d'un joueur qui est hyper talentueux, mais qui en est à sa première vraie saison. C'est un bijou. Préservons-le. Je pense qu'il va devenir le joyau du football européen. Mais pour l'instant, il n'en est pas là. Et moi, je suis pour lui donner du temps. Et je suis très content qu'il reste à Leverkusen avec Xabi Alonso.
Florian Wirtz est donc un formidable joueur, mais il n'est pas encore le meilleur à son poste.
J'ai respecté le timing.
Dave Apadou, là, dans les clous, absolument parfait, à la seconde près. Est-ce qu'on s'emballe un petit peu sur Florian Wirtz, comme le dit Dave Apadou, tour de table, oui ou non? Givardez.
Je suis d'accord avec lui. Moi, mon podium, c'est Bellingham, sur la saison Bellingham, De Bruyne et Wirtz, donc troisième, c'est pas le meilleur.
Karine Galli.
Totalement d'accord.
Florent Gazan.
Totalement d'accord, et il vient de rentrer là, et pour l'instant, Leverkusen est en train d'encaisser sa première défaite de la saison. Donc ah oui, Wirtz n'est pas un magicien.
Voilà. Donc vous n'êtes finalement, globalement, pas tombé sous le charme.
Si.
Oh là, voilà, voilà,
non, mais
voilà.
Si. Mais alors,
mais non, mais si.
Il avait fait des misères à Monaco d'ailleurs.
La prochaine fois, je vais inviter Xavier Domergue, je peux vous dire que ça va changer.
Mais non, mais il est magnifique, c'est un très beau joueur. Mais
c'est le meilleur, c'est pas le meilleur, c'est un des meilleurs, mais c'est pas le meilleur.
Il n'a pas une pression.
Mais non, mais j'ai rajouté aujourd'hui.
Mais non, mais
aujourd'hui, si on fait une photo, un instantané, c'est pas le meilleur.
Mais sauf qu'il n'a pas la pression qu'ont les autres. C'est incomparable. Il joue à Leverkusen, qui a été un épouvantail toute la saison. L'an dernier, il avait déjà fait des très belles choses. Il est en train de monter en puissance. Mais le jour où il bascule au Real Madrid et qu'il fait ce que Bellingham est arrivé à faire en passant d'un club moyen au Real Madrid, plus grand club d'Europe, on en reparlera. Pour l'instant, c'est magnifique, c'est un joueur qui est pétri de talent, mais ça reste un joueur de Leverkusen, on verra, dans un autre écosystème.
Et qui bénéficie aussi du travail de Xabi Alonso, de cette équipe incroyable qu'il a montée, et donc voilà, il en est le leader, mais enfin, il bénéficie aussi de tout ce qu'il y a autour. Mmh.
La bonne nouvelle, en tout cas, c'est qu'il va rester à Leverkusen, c'est et qu'on verra ça. Cette équipe avec toutes ses forces en Ligue des Champions, et ce sera un sacré client qu'il faudra se croquer, se farcir, je sais pas dans quel chapeau
Parce qu'il sera au chapeau 4, peut-être.
Mais, voilà, ce sera l'équipe à éviter,
bonne chance, hein.
Probablement au tirage au sort. 20h17, la pause, et on se retrouve pour les deux derniers débats flash dont refait le match. À tout de suite.
On refait le match avec Philippe Sansfourche.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Bonne soirée sur RTL.
RTL, vivre ensemble.
RTL présente l'exposition Achille et la guerre de Troie au Musée de la Romanité à Nîmes. Plongez au cœur de cette épopée mythique à travers une centaine d'œuvres exceptionnelles et une fresque numérique immersive. Achille et la guerre de Troie, actuellement au Musée de la Romanité à Nîmes, avec RTL. Ça s'est passé sur RTL.
Christelle, êtes-vous surendettée?
Oui, j'ai 47 000 euros de dette. Je vais être expulsée de ma maison. J'attends la décision du juge pour savoir quand.
Lucien, bonjour, mon cher Lucien.
Bonjour. Le cas de Christelle ne peut qu'émouvoir et je me proposais tout simplement de l'aider en reprenant sa dette sur sa maison.
C'est formidable d'entendre ça. J'imagine qu'elle est émue, Christelle.
Je ne sais pas quoi dire. C'est merveilleux. Parce que je suis très, très émue.
Merci à tous pour votre générosité.
Vous allez vous en sortir, Christelle. Croyez-en, la solidarité d'RTL.
Et oui, c'est ça, le vivre ensemble sur RTL.
RTL.
On refait le match. Les débats flash.
Voilà, le Vivre Ensemble, c'est tous les jours sur RTL, mais c'est aussi dans On refait le match avec Florent Gazan, avec Déva Padoue, avec Gilles Verdez et avec Karim Galli, avant de retrouver Eric Silvestro à 20h30 pour RTL Foot. Troisième débat flash dans On refait le match, on va retourner à Marseille, tiens, pour se pencher sur la saison prochaine et la question de l'entraîneur, puisque vous savez que Jean-Louis Gasset est en intérim, il va terminer son intérim à la fin de la saison. Et donc, il y a des noms qui émergent. Alors, Paulo Fonseca, le coach portugais de Lille, est la priorité absolue de Pablo Longoria et de la direction marseillaise. Un autre entraîneur venu du Nord, Franck Haez, le coach lensois, fait lui aussi partie des alternatives les plus sérieuses. Quel serait le meilleur choix pour l'OM, finalement ? Haez ou Fonseca, Gilles Verdez, vous avez 45 secondes.
Alors, je ne me suis focalisé que sur ces deux noms. Hein. Je n'ai pas été voir ailleurs, que sur ces deux noms.
Le meilleur ch'ti pour l'OM.
Fonseca, il est bien. Il a entraîné à Rome, il a entraîné à Donetsk. Il valorise les joueurs qu'il contribue à recruter par ses réseaux. Mais moi, je vote Franck Haez. Pourquoi ? Parce que l'OM n'a pas besoin d'un entraîneur. Il a besoin d'un bâtisseur, d'un architecte, d'un vrai manager. Et Franck Haez, il faut qu'il fasse à Marseille ce qu'il a fait à Lens. Il est au-delà du sportif. Il va fédérer des énergies. Il va recréer quelque chose. Il va prendre le pouvoir. On voit que le président, le directeur général, ça va pas. Ça va être l'homme fort. Plus que Fonseca, qui lui est un technicien, pour moi, Franck Haez, c'est l'architecte du nouvel OM. Il a la grinta, il sait maximiser les joueurs, il sait bien les utiliser. Il a le domaine sportif, mais bien au-delà, pour moi, c'est l'homme proté pour Marseille.
Voilà un débat parfaitement tranché pour Gilles Verdez, qui vote donc Franck Haez sans hésitation. Tour de table, d'accord ou pas d'accord avec Gilles, Karine Galli.
Je ne peux pas lui donner le point, parce qu'aucun des deux...
Ah bon.
Ah oui, mais bon, voilà
qui est clair. Ah oui, mais là, tu pouvais pas t'en sortir du coup.
Bon, on verra par la suite. Florent Gazan.
Pas d'accord, désolé Gilles.
Aucun pour moi, désolé. Aïe, Déva Padoue pour l'honneur.
Belle boxe, hein, belle... mais non.
Non, alors là, il fait chou blanc, pourtant j'ai trouvé que son
c'était
limpide et engageante.
C'est utopique. En fait, Marseille nous manque, comme d'habitude. Marseille n'aura ni Fonseca, ni Franck.
Ah bah oui, mais bon,
alors,
oui.
Okay. Mais c'est ça la réalité. Pourquoi ces entraîneurs qui travaillent bien depuis plusieurs années iraient à Marseille, qui est un bourbier absolu, qui constamment doit tout reconstruire parce qu'ils sont incapables d'avoir un projet à long terme. Aujourd'hui, Marseille ne sera pas en Ligue des Champions, ne sera pas en Ligue Europa. Arrêtez de me dire qu'ils vont gagner la Ligue Europa, c'est de la foutaise. Et donc, ils seront peut-être péniblement en Ligue Europa.
On peut te la ressortir, celle-là.
Oui. Et donc, il faudrait que Franck Haez et Fonseca, qui ont effectivement une cote aujourd'hui, aillent à Marseille dans un club qui est pas bien dirigé, qui est bancal et qui va encore devoir trouver des solutions après cette saison qui sera de toute façon ratée. Une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est pas un titre et Marseille en a des titres.
Donc après, effectivement, ils vont perdre des joueurs, on verra selon la Coupe d'Europe, l'enveloppe et le budget.
Ça va
mais
impacter,
on sait que sur le poste de l'entraîneur, on l'a vu quand même avec des garçons comme Sampaoli, ils sont capables quand même de convaincre et de lâcher une belle somme. Je pense que financièrement parlant, ils peuvent convaincre.
Sampaoli peut se relancer.
Oui, mais la différence déjà entre Franck Haez et Paulo Fonseca, c'est que Franck Haez, il est français et que Paulo Fonseca, il est pas français et qu'on a vu que Pablo Longoria, les entraîneurs français, c'est pas trop ça le fait pas rêver. Jean-Louis Gasset, on sait bien que c'est pas le choix de Pablo Longoria qui lui a été un peu imposé. Et sinon, il aime bien les entraîneurs étrangers. Alors, en plus, entraîneur portugais. Il y a un petit peu cette hype des entraîneurs portugais. Donc déjà, je pense que ça, c'est rédhibitoire pour Pablo Longoria s'il est encore président. Après, Fonseca, moi, je pense que c'est plus costaud et c'est plus à même de travailler avec cet effectif-là que Franck Haez, qui est quand même, pour moi, plus un artisan et ce sera plus compliqué. Lens, on dit que c'est le Marseille du Nord, mais c'est deux clubs qui ont absolument rien à voir, en fait.
Oui, mais moi, c'est un petit peu pour ça. C'est-à-dire que je renverse, en fait, les arguments de Gilles. C'est-à-dire que Franck Haez, moi, je pense qu'il est à Lens dans un écosystème très protecteur, avec un environnement très favorable, avec, on lui fait pas la fête, hein. Là, je veux dire, globalement, ça se tient bien, alors que Lens, ces dernières semaines, c'est très compliqué. Marseille, c'est un panier de crabes. C'est toujours extrêmement compliqué. Or, Fonseca, il a dirigé Rome. Rome, vous savez, c'est à peu près l'équivalent en termes de complexité. C'est pareil, c'est un club explosif. Il a une autre expérience aussi en Ukraine. Là, pareil, il a aussi ce côté voyageur, être capable d'agencer et d'optimiser à peu près les ressources. À Lille, c'était pas simple à Lille, hein. C'est une direction là aussi compliquée. Je trouve qu'à chaque fois, c'est quelqu'un qui arrive avec ce qu'on lui donne à optimiser ce qu'il est capable de faire. Moi, je trouve que Franck Haez, il y a encore des garanties à aller chercher. Et je trouve que pour l'instant, il a prouvé dans un contexte qui est très favorable, très protecteur, où c'est l'homme proté, pour le coup, qu'il ne serait pas à Marseille. Donc, moi, je renverse, en fait, ces arguments-là.
Très bien. Bah, en tout cas, c'était d'une bonne tenue pour chacun et chacun se fera son idée. Mais je retiendrai aussi la première intervention de Karine, qui est de dire que finalement, quel que soit le choix de l'OM, il faut aussi que ça se structure différemment à Marseille pour que l'entraîneur puisse construire quelque chose.
Si Foncé et Francaise, je viens pas à Marseille demain.
Ça va dépendre aussi de où ils finissent en fin de saison.
Ils vont pas finir sur le toit de l'Europe. Hein.
Bah, ils peuvent finir européen, ils peuvent rater la Ligue Europa, ça change un peu la donne quand même. S'ils se qualifient par le championnat.
Oui, enfin, vu les prestations, Ligue Europa Conférence, il n'y a pas de quoi non plus tomber de sa chaise.
Bon, en tout cas, Francaise, il pourra éventuellement se rapprocher des dirigeants marseillais demain, puisqu'il sera avec Lens
au Vélodrome
pour ce grand match de la soirée, hyper important dans la course à l'Europe.
Vous le voyez pas plutôt à Nice, vous, Francaise
l'OM.
Vous manquez d'ambition pour
Mais non, c'est pas ça. Mais Gisolfi, il y a une capacité de recrutement, il y a de l'argent, il y a du savoir-faire, il y a un club un peu plus tranquille. Moi, je trouve que pour Francais,
les relations pour entamer une tractation entre les deux clubs, entre Lens et Nice, on sait que c'est une guerre ouverte. Et qu'aujourd'hui, c'est pas simple. Mais bon, dans le foot, on sait que.
Et puis, il a peut-être son mot à dire aussi, Francais.
Allez vite, oui, tout à fait.
Peut-être avoir envie de rester aussi à Lens, finalement.
Oui, non, il ira à Marseille.
Ouais, mais ça pour le coup, alors moi j'ai Francaise qui reste à Lens, j'ai l'impression qu'on est au bout de quelque chose.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi je pense que même lui a conscience qu'il est une sorte de plafond de verre, il ira pas plus haut.
Ce serait presque dangereux.
Dangereux pour lui de rester. Ouais.
Et pour le club, pour tout le monde. Bon, c'était un avis très personnel. Avant d'attaquer le quatrième et dernier débat flash de la soirée, on va se projeter sur l'Euro, sur l'été, qu'on vivra évidemment en long et en large sur RTL. Avec, on va être un peu technique sur la liste, avec la commission des compétitions de l'UEFA, qui s'est prononcée pour une liste élargie à 26 joueurs pour le prochain Euro. C'était déjà le cas sur les précédentes compétitions, mais dans un cadre particulier, puisqu'il y avait, on se souvient, la crise Covid et le sortir de la crise Covid. Ça devrait donc être voté, c'est soutenu en tout cas par une majorité de sélectionneurs qui estiment qu'ils ont ainsi plus de choix pour pouvoir piocher dans le vivier des joueurs de talent de leur équipe. Sauf Didier Deschamps, qui lui est plutôt contre, et en tout cas très sceptique, puisqu'il parle de frustration des joueurs lorsqu'ils sont écartés par exemple à l'entraînement pour les petits jeux, puis après il y a le soir du match où certains ne sont pas sur la feuille de match. Donc qui a raison finalement dans ce débat ? Florian Gazan, vous devez trancher, vous avez 45 secondes.
Je pense que l'UEFA a raison et que c'est bon si la condition sine qua non, effectivement, sur la feuille de match, il peut y avoir tous les joueurs comme c'était le cas au Qatar, auquel cas il n'y a pas cette frustration d'être dans les tribunes. Après, Didier Deschamps, finalement, il a été quand même bien content d'avoir 26 joueurs au Qatar, parce que quand on regarde la Coupe du Monde, en finale, il en sort deux, il sort Dembélé et Giroud, il dit parce qu'on a manqué de fraîcheur. Bah, si t'as 23 joueurs et pas 26, au niveau de la fraîcheur, t'es pas très bien. En finale, Colomani, l'entrée et Marcus Thuram font que ça se passe bien. En demi-finale, c'est l'entrée de Thuram qui fait que finalement, et Colomani qui marque, on assoit la victoire contre le Maroc. Donc on a besoin d'avoir cette plénitude. On a encore beaucoup de joueurs qui sont sur les compétitions, les Coupes d'Europe, les finales, qui vont arriver fatigués, il peut y avoir des blessures. Donc autant se donner la chance d'avoir un maximum de joueurs et pas se restreindre à 23, autant partir sur 26, en plus avec les 5 changements.
C'est très clair pour Florian Gazan qui fait moins de 45 secondes en plus.
Bon,
voilà, c'est ramassé,
retard,
mais c'est parfait. Donc c'est l'UEFA qui a raison et c'est Didier Deschamps qui boude un peu pour rien. Voilà le développement de Florian Gazan. D'accord, pas d'accord, Della Padoue.
Hélas, pas d'accord. Mais j'ai bien aimé les arguments, mais non, je suis pas d'accord.
Gilles Verdez.
Pas d'accord, vive Deschamps.
C'est son argument, ça.
Cagnelli.
Moi non plus, pas d'accord. Mais je précise que Deschamps soit pas d'accord. Moi, je pensais qu'il était content.
Non. Il aime pas gérer des groupes trop importants avec des joueurs qui jouent jamais. Non. Pour moi, je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord très vite.
Alors, Gilles.
C'est une sélection, on sélectionne. Là, 26, exactement. Pourquoi pas 35, 47, etc. Ça rime à rien du tout, quoi. On prend les meilleurs et voilà, on limite. Déjà, 23, c'est beaucoup. Après, ça devient n'importe quoi.
Oui, on a gagné la Coupe du Monde à 22 en 98. C'était largement suffisant parce que 26, en fait, tout le monde peut prétendre à une sélection. Maintenant, ça n'a plus aucun sens. Alors, les 5 changements, je suis contre. Les 26, je suis contre. Il faut des groupes restreints. Tu prends le nec plus ultra de ta nation et tu prends pas des joueurs qui vont faire les Adil Rami, c'est-à-dire qui servent à rien.
Oui, mais là, pour la défense de Flo, c'est qu'il dit pas qu'il est pour les 5 changements, c'est qu'il acte qu'il y a 5 changements,
oui, mais...
et du coup il corrèle avec le groupe de 26. Moi je trouve que c'est cohérent, mais
il a fallu donner le point alors.
Mais non, c'est pas ça, c'est que je suis d'accord avec Gilles, c'est-à-dire que pour moi dans sélection, effectivement, il y a l'idée de sélectionner, donc de trier et de garder la quintessence. Et moi, des gens qui, franchement, ont un niveau qui sont moyens, qui sont juste des joueurs de Ligue 1, qui se retrouvent en équipe de France et qui peuvent se prévaloir d'avoir fait une phase finale, quand tant d'autres qui étaient des monstres, et vous les connaissez, vous les connaissez, quand tant d'autres qui étaient des monstres n'ont pas pu faire de phase finale.
Vous manquez de courage, Eric Silvestro, lui, il a sa place en numéro 1 sur la liste.
Bah, évidemment.
Vous voulez le monde avec le 12 et le 13 à 2 sur le banc.
Ah, parce que tu trouves que c'est normal que Disasi ait fait une phase finale de Coupe du Monde.
Ah, mais lui, même dans 23, il devrait pas y être.
Tiens, voilà,
ouais, enfin, si t'as pas Colomani et Thuram, tu vas pas en finale de la Coupe du Monde. Hein.
Bah, t'aurais pas
le niveau. C'était 25 et 26ème.
Allez, on refait pas le match, on l'a refait. On refait pas le débat.
PSG-Le Havre. Le titre ou pas ce soir, peut-être.
Eh ben, on va vivre ça dans un instant avec Eric Silvestro et avec Baptiste Durieux qui sera au Parc des Princes. On fait le match, on se retrouve la semaine prochaine à 19h et on rappelle tous les jours la quotidienne sur le site, sur les applis avec Florent Gazan. Ciao, ciao.
RTL.
Bonjour, c'est Mohamed Bouafsi.
Focus dimanche.
Cette affaire a scandalisé les Français. Un ancien policier a été relaxé alors qu'il était accusé de violence intrafamiliale sur ses enfants. La cour d'appel a estimé qu'il avait un droit de correction. Son ex-compagne témoigne pour la première fois à la radio. C'est l'événement. David Hallyday sort une nouvelle version de 100% la chanson, mythique avec son père Johnny Hallyday. Il est mon invité. Elle est la commandante de l'office mineur. Véronique Béchu se bat contre les pédocriminels sur Internet depuis 20 ans. Elle vous donnera les clés pour protéger vos enfants.
Focus dimanche.
Soyez au rendez-vous demain sur RTL. À 13h.
RTL Foot,
c'est jusqu'à 23h.
Présenté par Eric Silvestro.
À tous, ravi de prendre la suite des camarades de Refait le Match. Oh, ils veulent pas partir du studio, ils sont en train de s'embrasser, de se dire au revoir, on peut pas ouvrir les micros du coup, voilà, c'est la fête, c'est la bonne humeur, c'est ça RTL aussi, la convivialité. On Refait le Match a bien chauffé la scène pour le Paris Saint-Germain et pour les Havrais. PSG Le Havre, c'est notre affiche du soir à 21h, Baptiste Duruc. Vous avez déjà entendu, et bien là, en place au parc, salut mon Baptiste.
Salut Eric, bonsoir à tous.
Nous sommes évidemment avec Karine Galli, qui elle aussi s'était chauffée depuis 20h dans les débats flash, et avec Xavier Domer qui est avec nous. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous.
Où en est votre équipe du Bayer Leverkusen? Ça y est, c'est terminé, première défaite de la saison?
Mais bien sûr, ils sont encore invaincus, ils ont égalisé à la 96e minute.
Toutes les semaines, ils vont repousser les limites.
Non mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que le week-end dernier, ils ont fait pareil à la 97e, et là, à la 96e, coup franc de ton chéri Florian Wirst, évidemment.
Ouais, évidemment, de toute façon. Et
c'est... ça, c'est parce qu'il a écouté votre mini débat sur voilà. Qui est le meilleur joueur en France.
Et Andrich qui marque. Non, mais ils sont hallucinants. Ils vont refaire Arsenal.
On va en parler.
Cette équipe est insubmersible. On le sent. Et puis il y a toujours en plus ce scénario en fin de match, dans les ultimes instants. On a vu Patrick Schick, là c'est Andrich sur une merveille de coupe arrêtée de Florian Wirst. Ben c'est. C'est fantastique. Moi, je trouve ça génial parce que Arsenal, on en avait beaucoup parlé en 2003-2004 avec Robert Pires, avec cette grande équipe à l'époque des Gunners. Franchement, ce qu'ils avaient fait, c'était quelque chose d'assez extraordinaire et exceptionnel. Si Leverkusen parvenait à le faire.
On va y revenir. Ouais. Et pourtant, il y avait Nöbel dans les buts de Stuttgart.
Ah, qui fait un double arrêt remarquable.
Eh oui, pourtant, comme quoi les années changent. Selon les années, c'est pas toujours le même scénario. On va se concentrer évidemment sur le soir du Paris Saint-Germain. 12e titre qui tend les bras aux Parisiens ce soir à domicile devant leurs supporters face au Havre. 16e et barragiste. Mais le Havre va peut-être mettre le bus, hein, les amis, parce qu'ils ont besoin de points, les Havrais, pour espérer croire au maintien. On va découvrir évidemment les compos des deux équipes avec Baptiste. On va parier sur cette rencontre. Je vous donne déjà un chiffre, hein. 99% des prises de Paris le sont sur une victoire du Paris Saint-Germain ce soir face au Havre. Sinon, si Paris ne bat pas le Havre ce soir, il faudra attendre le match Lyon-Monaco demain soir à 19h. Il faudra que Monaco s'impose pour repousser encore d'une journée le sacre du Paris Saint-Germain, et ce n'est évidemment pas fait du tout. On reviendra, c'était le cas déjà dans Refait le Match, mais on y reviendra également avec notamment Xavier qui connaît bien le foot allemand, sur la gifle reçue par Dortmund à Leipzig, 4-1 cet après-midi.
Xavier était plein de positivité hier soir et j'ai pensé à lui pendant le match.
De bon augure peut-être pour le Paris Saint-Germain avant le déplacement à Dortmund mercredi pour la demi-finale aller de Ligue des Champions. Et Saint-Etienne, les amis, a encore gagné en Ligue 2 1-0 face à Caen. Saint-Etienne est deuxième du championnat, c'est bien ça, parce qu'Angers, on va regarder les scores tout de suite, Xavier, Angers était tenu en échec sur la pelouse du Paris FC, me semble-t-il.
Oui, tout à fait, c'est assez exceptionnel ce que sont en train de faire les Verts, parce que tout n'a pas été parfait cette saison, et ce succès quand même est très très précieux face à Caen, hein, Caen qui réalise une belle saison aussi.
Aussi en course pour les playoffs. Hein.
Tout à fait, grâce à un but d'Aymen Mouefek, Saint-Etienne est plus que jamais dauphin de la JOCR, puisque Angers, pour l'instant, est tenu en échec, un but partout. On rappelle pour le SCO tenu en échec sur la pelouse du Paris FC. Sinon, on joue depuis 78 minutes dans les autres rencontres. L'AC Ajaccio, c'est un but partout également contre Quevilly-Rouen. 0-0 entre Amiens et 3-3 buts à 2 pour Annecy face au Sporting Club de Bastia. 2-0 pour Rodez sur la pelouse de Concarneau. 1-0 pour Laval face aux Girondins de Bordeaux, pour qui ça ne s'arrange guère, malheureusement. Et 1-0 pour Guingamp sur la pelouse du Paris FC. Sans oublier Valenciennes qui mène 2-0 face à Grenoble.
J'espère que vous êtes en forme, les amis. C'est un soir peut-être de titre. C'est donc un soir important dans la saison. Les soirées encore plus importantes arrivent pour les clubs français en Coupe d'Europe mercredi et jeudi. Ce sera évidemment sur RTL. RTL Foot avec Spencer et Léa à la réalisation. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Soyez les bienvenus. Vous restez bien là si vous êtes là depuis un moment. Et on le souhaite depuis le début d'On refait le match et même bien avant dans la journée avec tous les programmes de RTL.
RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
Le Parc des Princes a-t-il revêtu ses habits de lumière, Baptiste Durieux ? Il n'y aura pas de fête hein, ce soir de prévu au Parc, même en cas de titre.
Ouais, tout à fait, effectivement. Il y a quand même un match face à Dortmund, une demi-finale qui va être extrêmement importante. Donc le but, c'est pas de déconcentrer tout le monde. Et Luis Enrique, justement, craignait un petit peu de dispersion. Et il faut que la fête, elle existe, parce qu'il y aura quand même un tour d'honneur, mais il n'y aura pas de remise de trophée. Et ce sera relativement court et efficace, avec beaucoup de sobriété pour très vite se mettre dans la tête cette demi-finale qui évidemment intéresse tout le monde ici.
Baptiste, vous êtes un jeune journaliste plein de talent et qui a quelques années quand même derrière lui, mais vous restez un jeune journaliste par rapport à nous qui prenons un coup de vue à chaque fois que
qu'on lui demande son âge,
la nouvelle génération arrive. Être au stade pour un match du titre, ça crée quoi encore chez vous? Parce que c'est vrai qu'on j'entendais dans Rolf Hatch, il ne faut pas banaliser les titres du PSG. Bon, ces dernières décennies, il y en a quand même eu beaucoup. Donc voilà, là, ça serait le 12e de l'histoire. Qu'est-ce que toi, ça te fait encore là d'être au stade et de dire peut-être ce soir j'assiste au sacre du Paris Saint-Germain?
J'adore, c'est une question à la Johan Rioux qu'on embrasse. Non, mais c'est toujours beaucoup d'émotions parce que.
Demain d'ailleurs.
C'est vrai.
Il sera là demain.
Ce sera le 12e titre. Évidemment que la domination nationale du Paris Saint-Germain depuis 2013, hein, elle est incontestable, mais il faut jamais banaliser ça. Je pense que les supporters sont ravis. C'est aussi la consécration d'une saison qui a été parfaitement gérée par un coach qui a aussi parfaitement tout géré pour l'instant, c'est Luis Enrique. C'était une saison qui quand même démarrait un peu comme une saison de transition, une saison qui paraissait anodine. Il y a aussi le départ de Kylian Mbappé qui n'est pas encore parti, mais en tout cas cette annonce qui a fait beaucoup de bruit. Donc il y avait tellement de vents contraires, tellement d'éléments qui étaient négatifs que de vivre ce titre-là et cette consécration-là avec un PSG qui traverse quand même une période avec très très peu de turbulences, si ce n'est pas du tout. Il n'y a aucun joueur blessé. Paris est engagé dans toutes les compétitions, peut réaliser un quadruplé. Donc dans ce contexte-là, ce 12e titre, il aura une saveur qui sera absolument extraordinaire. Paris en plus va accroître son avance dans le palmarès des clubs français. Donc c'est toujours beaucoup d'émotions. Il ne faut jamais banaliser ça.
Je remets mon costume de Yuan Ryu et je repose la question. Oui, mais toi, ça te fait quoi, toi?
Moi, je suis pas vraiment supporter, mais je suis très très heureux.
Je parlais en tant que journaliste, pas en tant que supporter. Ah oui. C'est quand même des soirées un peu particulières. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Non, mais en fait, je suis très heureux d'être là. Et d'ailleurs, que le PSG joue le titre ce soir ou pas, je suis toujours heureux d'être dans un stade de foot et de surcroît au Parc des Princes avec des joueurs de qualité sur la pelouse. Donc, je suis toujours très très heureux. Mais c'est vrai que vu que cette demi-finale arrive très vite, vu qu'effectivement on est aussi habitué parfois au titre, en tout cas des championnats de France du Paris Saint-Germain, on a quand même la tête à mercredi, quoi. Pour être tout à fait honnête, mais toujours très heureux d'être là, et en tout cas pour moi ce sera beaucoup d'émotions et ce sera un moment dont je me souviendrai, ça c'est sûr et certain.
Bon, en tout cas,
vous m'avez pas posé la question, je ne sais pas.
Mais vous n'êtes pas au stade.
Mais oui, mais quand même, moi ce qui me manque en fait dans cette saison, malheureusement, c'est que j'aurais aimé, et on vient d'en parler juste avant avec le Bayer Leverkusen qui est en train de le faire, qui en fait qui est une nouveauté dans cette saison, et la nouveauté voté, ça aurait été que le PSG parvienne à être invaincu. Et malheureusement, il y a eu cette défaite contre Nice au Parc des Princes. Et donc, pour moi, c'est évidemment un titre de plus, bravo à eux. Mais ce titre ne sera pas sorti par rapport aux autres. Il me manque un petit plus. Et c'est vrai que chaque année, avant, on disait, bon, qu'est-ce que le PSG peut faire pour pimenter un petit peu sa saison en Ligue 1? Il y avait donc cet objectif d'être invaincu. Ils n'ont jamais réussi. Alors là, je ne dis pas qu'ils l'avaient annoncé cette année, hein, parce que ce n'était pas du tout le cas. Mais je trouve ça dommage, effectivement, qu'il n'y ait pas eu cette quête-là. Ils ont essayé, sûrement, mais en tout cas, ils ne l'ont pas obtenu.
Ok, ok. Bon,
après, il y a des records à aller chercher hein, aussi. Le PSG, par exemple, c'est une série de 25 matchs sans défaite en championnat. C'est déjà dans le top 4 hein, de l'histoire du Paris Saint-Germain, cette performance. Mais le record, c'est 27 matchs. C'était en 93-94, donc ça aussi, Paris peut aller chercher. Il y a aussi un record d'invincibilité, je crois, à domicile. Enfin, il y a plein de choses, et la saison, elle est tellement belle. Je veux dire, Paris, c'est quand même un club qui est habitué à de multiples péripéties, et les voir aujourd'hui dans une sérénité absolue, aller chercher devant les supporters au Parc des Princes ce 12e titre, et puis avec tout ce qui va arriver, la finale de la Coupe de France aussi, il faut le préciser, et puis cette demi-ligue des champions, non, ça va être extraordinaire.
Ok, on connaît a priori le trio d'attaque de mercredi soir à Dortmund, il est sur le banc ce soir.
Tout à fait, effectivement. Kylian Mbappé est sur le banc, notamment, c'est la principale information.
Bah non, Barcola, il n'est pas titulaire.
Mais si, Barcola.
Ah oui, c'est ça, pour ça
titulaire.
J'étais perdu.
Tout à fait, avec Ousmane Dembélé également, qui a joué hein, cette semaine à Lorient et qui a brillé, qui a marqué un troisième but en trois matchs pour. L'ancien attaquant de Barcelone.
C'est le troisième, simplement, Eric.
Non, mais là, c'est que Eric nous annonce que Gonzalo Ramos est titulaire mercredi, et ça,
pourquoi
j'aime.
Pourquoi pas. J'aimerais.
Non.
Et donc, la composition, ça nous donne Keylor Navas dans les buts, puisque Donnarumma est préservé, n'est même pas dans le groupe hein, ce soir, tout comme Nuno Mendes, Lucas Hernandez et Fabian Ruiz. En défense centrale, Marquinhos, le capitaine, associé à Danilo Pereira. Ce sera Lucas Beraldo, le défenseur central de métier, mais qui va évoluer sur le côté gauche, avec Achraf Hakimi de l'autre côté, un milieu de terrain avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery, qui n'étaient pas là en Bretagne cette semaine, mais qui sont bien présents et titulaires ce soir pour aller chercher ce 12e titre. Marco Asensio dans un rôle probablement hybride entre le milieu et l'attaque, et puis cette ligne avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, toujours en manque de confiance, un attaquant de l'équipe de France, mais qui on espère en tout cas sortira peut-être une bonne performance ce soir.
Allez, avant d'analyser cette compo du PSG, celle du Havre, c'est important. Le Havre a beaucoup d'enjeux, peut-être plus que Paris même dans cette rencontre, même si ça semble inaccessible. Les Havrais sont 16e et barragistes avec 28 points.
Et avec des retours importants avant que Baptiste détaille ce 11, retour d'Abdoulaye Touré dont on connaît l'importance dans le cœur du jeu, retour d'Opéry aussi, l'un des meilleurs latéraux dans le couloir gauche de notre championnat, et retour d'André Ayou avec toute son expérience, tout ce qu'il peut apporter dans ces grands rendez-vous.
Exactement, et donc ce sera Arthur Desmas dans les buts pour le Havre, charnière centrale avec trois joueurs, Loris, Salmier et Sanganté, Loïc Nego et Christopher Opéry, comme l'a dit Xavier, qui vont animer les côtés. Abdoulaye Touré donc au milieu de terrain avec Targaline. Ce sera Sabi et Casimir sur les côtés avec André Ayou qui sera aligné au poste de numéro 9, l'ancien de Marseille. Du côté du Havre, effectivement, grosse pression, 8 défaites sur les 12 derniers matchs de Ligue 1. Le Havre qui était 11e par exemple à la 21e journée, avec 5 points d'avance sur Lorient, 7 points d'avance sur Metz qui est passé devant aujourd'hui. Donc il y a vraiment urgence du côté des hommes de Lucas Leissner.
La série est terrible hein. 4 défaites lors des 5 derniers matchs, un petit nul seulement contre Lens, des défaites surtout contre Clermont, contre Nantes et contre Metz, les rivaux directs. La lente agonie du Havre, Karine, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu venir hein. On s'était dit cette équipe avec Lucas Leissner, elle est relativement cohérente, même si elle ne marque pas beaucoup de buts.
Oui, on savait qu'ils se battraient toute la saison pour se maintenir, c'est normal, c'est un club qui revenait en Ligue 1 cette année. C'est compliqué, ce qu'ils font c'est cohérent, mais malheureusement il y a des équipes qui parfois tombent en toute fin de championnat, en n'arrivant pas à enchaîner les bons résultats, et eux ils ont eu quand même des scénarios qui ont été très très durs. Le but par exemple nantais dans les ultimes secondes, ça vaut plus qu'une défaite, ça te plombe réellement, et on en a déjà parlé hier, il y a quand même un problème d'efficacité, il y a un problème de talent offensif. André Ayou se retrouve souvent à jouer en faux neuf. André Ayou n'est pas un neuf. Donc voilà, on bricole un petit peu, et c'est vrai que ça va être dur, mais bon, ils sont pas largués, et toute la saison ils savaient que de toute façon ils seraient au mail avec d'autres équipes pour se maintenir.
On rappelle que la victoire qui est quand même la seule éclaircie, la victoire le 10 mars dernier face à Toulouse
1-0,
seul succès sur les 12 dernières journées de championnat. Donc on évoquait, Baptiste évoquait cette série, la série si on la prend de manière un petit peu plus courte, un petit peu plus récente, c'est quand même 8 défaites sur les 10 dernières journées de championnat. Donc la série série est terrible. Elle arrive au pire des moments et le Havre se retrouve dans cette situation dans laquelle ils n'ont jamais été finalement cette saison. Mais c'est inéluctable au regard des résultats récents du club. Même si le club travaille bien, même si on rappelle que Mathieu Bonnemer, Nicolas Duchesse, Luca Elsner ont prolongé il y a quelques semaines, peu importe ce qui se passe, s'il y a la Ligue 2 au bout, c'est pas ce que l'on souhaite au Havre, mais ils seront là.
Cohérent.
En tout cas, ça reste cohérent. Le projet est là, mais ce serait terrible.
On revient au Paris Saint-Germain. Le fait de voir Dembélé, Barcola titulaire, ça tourne voilà, en partie et on continue cette rotation que Luis Enrique a installée. Les résultats lui donnent raison, donc il n'y a pas de raison d'en douter.
Oui, mais enfin, ce qui est quand même toujours un petit peu particulier, c'est qu'au final, bon, Dembélé, c'est quand même un joueur où tu te dis, c'est quelqu'un qui s'est énormément blessé dans sa carrière. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas sur cette saison à Paris, tant mieux. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt le préserver? Et tu vois bien que, dans le même temps, bah, le seul qui trinque un petit peu devant, c'est quand même Kylian Mbappé. Alors que Kylian Mbappé a...
Ouais, il a mis son doublé contre Lorient.
Ah, mais d'accord, mais sauf que son objectif quand même, j'imagine, c'est d'essayer de faire la plus belle saison possible avec le plus de buts possible, être assuré d'être encore une fois meilleur buteur de Ligue 1, etc. Mais après, si...
Ça, c'est quasiment assuré. Oui, mais par contre, dans le match avec les Harry Kane ou autres du nombre de buts de l'année...
Là, il en a 42, hein, c'est ça?
42 en 43 ouais. matchs.
Donc voilà, Kiki, il prend son mal en patience et il a compris que voilà, c'était un deuxième choix en Ligue 1.
C'est d'ailleurs son meilleur bilan personnellement sur une saison. Il faut quand même se rendre compte. C'est-à-dire qu'on dit que Mbappé cette saison n'est pas exceptionnel en termes de chiffres et de stats, de buts. 42 buts, c'est son meilleur bilan sur une saison. Donc ça veut dire quand même beaucoup de choses. Moi, je pense que Luis Enrique...
Harry Kane a mis un doublé cet après-midi ouais. avec Bayern.
Donc c'est souvent, ouais. il va avoir envie de répondre, c'est ça?
Non, mais c'est pas ça. Parce que dans le match, moi, je pense toujours aussi au Ballon d'Or pour l'instant. Bien et sûr. Clairement, il y a quelques joueurs qui sont encore en lice. Et peut-être que Haaland a été un peu éliminé avec l'élimination de Ligue des Champions. Mais il te reste des Kane, il te reste des Bellingham, il te reste Mbappé, Vinicius, voilà. Et dans ce match-là, le nombre de buts total sur une saison, ça peut compter aussi.
Moi, je trouve que la gestion est très bonne de Luis Enrique. Alors, celle de Kylian Mbappé, elle fait grincer des dents parce que on n'a jamais été habitué à voir Kylian Mbappé souffler. Lui n'a jamais souhaité souffler. Donc...
Non, mais là, ça me choque pas, par exemple.
Non.
Là où je rejoins Karine, c'est pourquoi Dembélé souffle pas.
Bah, parce que
Dembélé, il faut toujours quand même le prendre avec des pincettes. On ne sait jamais.
Après, c'est une gestion d'effectifs globale. C'est-à-dire que Dembélé, je pense que Luis Enrique gère le temps de jeu de chacun. Et Dembélé n'a pas eu le même temps de jeu que Kylian Mbappé, par exemple, sur la dernière rencontre. Je pense qu'il gère vraiment tout ça. Il essaye de trouver un équilibre. Moi, je trouve ça intéressant, notamment pour Marco Asensio, qui a du mal à revenir, mais qui a du temps de jeu dans son rôle de meneur de jeu en soutien de Kolo Muani. On va voir encore une fois la prestation de Kolo Muani qui... on le dit à chaque fois qu'il joue, hein, mais il se doit de marquer des points, vraiment. Et ce soir, c'est un match important pour lui.
Le speaker accueilli, qui l'a accueilli, Baptiste?
Spécial avec Zaïre Emery.
Qu'est-ce qui se passe avec Zaïre Emery?
Le président du Paris Saint-Germain qui est avec Warren Zaïre Emery. Il y a effectivement un petit podium qui a été installé au niveau de la pelouse du Parc des Princes, au niveau de la ligne médiane.
Et pour quelle raison?
Il doit prolonger, non?
Eh bah bien oui, je pense qu'ils vont annoncer. C'est pas la prolongation du contrat de Kylian Mbappé, mais celle de Warren Zaïre Emery qui est... pas tout aussi importante, mais qui néanmoins veut dire beaucoup de choses.
Ouais, mais tu vois, Baptiste, ça pour moi, avant un match de l'importance quand même pour le titre et pour le Havre, faire une mise en scène pour une prolongation comme ça sur la pelouse, à quoi? Même pas un quart d'heure du coup d'envoi?
Et parce que c'est un peu l'élu, Warren Zaïre Emery, c'est-à-dire que c'est le joueur évidemment du CRU qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui est originaire d'Île-de-France, qui est un grand talent en devenir et qui du coup a signé jusqu'en 2029, donc c'est vraiment un contrat à longue durée. Il embrasse là à l'instant Nasser Al-Khelaifi, Warren Zaïre Emery, le milieu de terrain de l'équipe de France. Donc c'est aujourd'hui avec le départ d'Mbappé, c'est lui un petit peu qui symbolise en tout cas l'ADN PSG et en tout cas qui est censé le faire pour les années à venir. C'est pour ça qu'il y a aussi cette petite mise en scène qui est déjà terminée. Hein.
Bon, j'allais te dire, c'était court et sobre, donc ça va. Après,
de toute façon, maintenant ils sont obligés de capitaliser sur Zaïre Emery. Les banderoles aussi, elles étaient dans ce sens-là. Mbappé, la page, elle est déjà tournée. Il faut qu'elle se tourne de la plus belle des façons, mais l'avenir du club et le chouchou du PSG, etc. D'ailleurs, Mbappé n'a jamais été le chouchou, mais il capitalise sur Zaïre Emery.
Vous connaissez mes difficultés avec ce monde de la communication permanente. Voilà, je suis...
Le foot n'est que com.
Je suis malheureusement un peu vieillot et vieille France.
Au moins,
de ce côté-là.
La com sur Zaïre Emery, elle est censée.
Non, parce qu'elle est positive.
Mais surtout que Zaïre Emery, il est formé au club, il est fou du PSG. C'est pas le mec qui t'a dit la semaine dernière qu'il était fou de Dortmund, du Real, du Barça, du Nani. Lui, il a toujours été cohérent. Et la com qui est faite autour de lui, au moins il y a une sincérité qu'on ne peut pas mettre en doute.
Moi je trouve ça plutôt bien parce que c'était un petit peu caché aussi, et les supporters aiment ce genre de moment. C'est vrai, ça peut un peu surprendre par rapport au timing, mais Warren Zaïre-Emery, c'est l'avenir du club, c'est un joueur qui est déjà extrêmement sollicité par les plus grands clubs européens. T'envoies un signal fort quand même en disant voilà, on le sécurise. Il a prolongé jusqu'en 2029 avant de belles échéances comme Dortmund. Je trouve que le timing est plutôt bon.
C'est bien 2029, c'est pas 2028 plus 1 éventuel.
Ça, on sait pas.
Non, parce que comme avec les maillots, parfois, souvenez-vous, Mbappé 2025, le maillot. Voilà. Faudra poser la question quand même, Baptiste, pour être sûr que c'est.
Il y a un sujet. En tout cas,
on enlève les plus 1, je veux dire. On met plus de plus 1 dans les contrats du PSG, ça porte trop préjudice. Voilà pour le tableau de ce PSG Le Havre sur lequel nous allons parier, évidemment, à 12 minutes du coup d'envoi.
Maintenant, 100% prono avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Et les codes, je vous le disais, sont largement évidemment à l'avantage du Paris Saint-Germain. 1,29 la victoire parisienne, 10 euros de misée, 12,90 euros de gagné. 5,50 le match nul, 10 euros de misée, 55 euros de gagné. Et 9 la victoire havraise, 10 euros de misée, 90 euros de gagné. Hier, vous étiez pas si loin, hein, Karine et Xavier.
Oui, bah, c'est l'histoire de ma vie.
C'est peut-être pour ce soir.
Allez. Oui, bah, écoutez, il faut y croire. Alors, je vous propose. Ben
ça a l'air en tout cas.
Je vous
n'avez pas l'air très sûr de vous là.
Non, c'est convaincu, Karine.
Ce qui est beau, c'est que vous êtes toujours positif, mon cher Eric. Alors que là, je suis quand même sur une série dramatique.
C'est un exercice difficile.
Je suis sur une série dramatique.
Mais Mickey va vous porter chance.
J'adore.
Vous avez un joli Mickey sur votre.
Donc hier, je vous avais proposé une cote à 9,50 qui n'est pas passée. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, on va upgrader encore plus. Et on est à 12,50. Vous voyez.
Ah oui, c'est, ça monte haut.
Non, mais autant qu'à perdre, à perdre avec panache.
Écoutez, bien évidemment, on n'a plus rien à perdre. On fonce. Résultat PSG. Bon, là, je prends pas beaucoup de risques. Marge de victoire, le PSG qui gagne d'au moins 3 buts d'écart. Les deux équipes qui marquent, c'est un grand oui. Buteur multichance, soit le jeune Barcola, soit évidemment l'ancien Marseillais André Ayew.
Alors, c'est bien. Mais donc, le Havre ne marque quasiment jamais. Et là, ils vont marquer au parc.
Bah, bien sûr.
Voilà. Parce après, que attention,
il y aura une petite boulette.
3 buts d'écart, d'accord, mais personne ne s'économise pour Dortmund.
Alors. Non, mais juste une stade pour aller dans le sens de Karine. Paris a marqué et encaissé au moins un but lors de chacun de ses 9 derniers matchs de Ligue 1 à domicile.
Mais voilà, bien sûr. Il y a Keylor Navas que j'adore, mais qui joue très peu. Il y a Danilo Pereira en défense centrale avec Marquis. Je pense qu'il peut y avoir une petite décompression. Et poum, André Ayew en renard.
Très bien, c'est vendu. Xavier.
Bon, j'ai pris quelques risques, hein, je vous le cache pas. J'ai une cote de 34.
Ah oui.
Voilà. Avec la victoire du PSG, c'est ce qui est quand même assez fort. Donc victoire du Paris Saint-Germain.
Oui, il y a nul à la mi-temps.
Les buteurs, j'ai la main un peu chaude en ce moment sur les buteurs.
Oui, c'est vrai.
Hier exceptionnel.
Donc je suis parti sur un buteur sûr, Marco Asensio, et buteur multichance, Ousmane Dembélé qui est en grande forme, ou André Ayew, qui est un joueur important et qui pourrait avoir un rôle important justement
si
à jouer.
Si Dembélé continue à marquer à tous les matchs, là, ça devient un autre joueur.
Il faut qu'il glisse pour qu'il marque.
Pas faux.
Les deux équipes marquent, c'est un grand oui. Et puis, ça a été annoncé par Eric, évidemment. C'est là où je prends un gros risque, comme souvent.
Nul mi-temps.
Mais résultat,
hier,
match nul à la mi-temps.
Hier, ça serait passé, le nul à la mi-temps.
Hein. Oui, mais on l'a pas joué.
Et oui, c'est bien le problème.
Donc, cote de 34.
Nul mi-temps, là, j'avoue que là, aujourd'hui, sur PSG Le Havre, c'est risqué.
C'est possible. Souvenez-vous, PSG Clermont.
Oui, il y a eu nul à la fin du match, on rappelle.
Oui, non, mais je ne dis pas. J'ai juste que c'est un vrai risque. Après, c'est une très belle cote à 34.
Ah oui, de toute façon, il faut prendre des risques pour gagner.
Allez, prenons des risques. 34 pour Xavier, 12,50 pour Karine.
Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous m'auriez dit, on parie sur les deux équipes marquent pour Dortmund-PSG.
Ça, on le fera aussi.
Je sais. Mais là, sur PSG Le Havre, j'avoue que je suis un peu sceptique, mais je ne demande qu'à être convaincu, ce qui voudrait dire qu'on aura un match spectaculaire et ce sera absolument magnifique. Dortmund, justement, qui a pris une claque 4-1 à Leipzig, on en parle juste avant le coup d'envoi de PSG Le Havre. Après la pub, RTL Foot, c'est jusqu'à 23h.
RTL Foot. Suivez votre soirée foot sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL.
En
Anthony Martin sur RTL.
Laissez-vous tenter.
Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Omar Sy se confie longuement dans un livre d'entretien. Il a accepté de nous en parler en exclusivité. La chanteuse Zao de Sagazan, auréolée de 4 victoires de la musique, a fait un passage remarqué cette semaine au Printemps de Bourges. Elle sera notre invitée en tête-à-tête. Et puis, nous vous emmènerons à Athènes avec l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt dans le décor de son nouveau livre consacré à l'histoire de l'humanité. Laissez-vous tenter, c'est chaque dimanche à 9h15. Alors,
laissez-vous tenter. Vivez un moment hors du temps et ressourcez-vous au domaine de Chaumont-sur-Loire. Découvrez plus de 30 créations remarquables réalisées dans le cadre du Festival International des Jardins. Chaque jardin propose une promenade unique autour du thème Jardin source de vie. Retrouvez le Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire jusqu'au 3 novembre avec RTL. Éric Silvestro.
RTL Foot jusqu'à 23h.
Toute l'équipe est là avec vous, évidemment. Baptiste Durieux au Parc des Princes pour PSG Le Havre. Coup d'envoi dans 7 minutes maintenant. Karine Galli, Xavier Domergue à mes côtés en studio à Neuilly. Avant de se plonger pleinement dans ce match qui sera peut-être celui du 12e titre de champion de France du PSG, mercredi, toutes les têtes, on y pense tous. Les joueurs du PSG, le staff, l'encadrement, le foot français. Nous-mêmes, journalistes, on a hâte de vivre cette demi-finale aller de Ligue des Champions. Dortmund-PSG, le signe positif, on l'a dit, c'est que Dortmund a pris une correction cet après-midi à Leipzig dans le match du 4e contre le 5e. 4 buts à 1. Dortmund qui a marqué le premier but, à part Sancho, très joli but à la 20e. Et derrière, Openda, Sesko, Simakan et Baumgartner ont permis à Leipzig de décrocher un large succès. C'était un peu journée porte ouverte dans la défense de Dortmund et au milieu de terrain, Xavier. On le sait, hein, c'est une équipe qui a cette caractéristique au PSG de faire un peu comme a fait Leipzig, d'appuyer fort là-dessus. Quoi.
Exactement. Après, c'était un vrai choc. Attention, Leipzig réalise une très grosse saison. Tu parlais d'un choc entre le 4e et le 5e, c'était le cas. On rappelle les absences d'Emre Can et de Madsen qui étaient suspendus, deux joueurs très importants. Emre Can qui d'ailleurs est incertain encore hein, pour le match contre le Paris Saint-Germain, parce qu'au-delà de sa suspension aujourd'hui, il était assez touché, assez malade, donc incertain pour ce match. C'est un joueur qui est tellement important dans l'équilibre du Borussia Dortmund, mais voilà, c'est un Borussia fidèle à ses principes, capable de jouer, mais qui ouvre le jeu peut-être un petit peu trop et qui concède énormément d'occasions. Et on l'a vu encore une fois aujourd'hui, malgré le talent de Sancho, qui a permis pourtant à Dortmund de mener 1-0. Derrière, ils se sont exposés. Et puis, il y a eu le talent d'Openda qui a fait la différence. Il y a eu Benjamin Sesko, qu'on va suivre également avec la Slovénie, notamment à l'Euro, parce que c'est un joueur qui commence à marquer de plus en plus de points. Voilà, c'est une équipe qui a été fidèle à ses principes, Leipzig, Dortmund aussi, en concédant énormément. Donc, hier, moi, j'étais optimiste en me disant, imaginez Dortmund, si Dortmund venait à s'imposer à Leipzig, ils arriveraient gonflés à bloc avant le match contre le Paris Saint-Germain. Là, c'est tout le contraire.
On aura le temps d'en parler mercredi, Karine, mais moi je me dis, le PSG joue tranquillement, bien en place, sans se livrer, et fait parler les flèches devant, et pff, ça va être une...
Ah non, mais moi je suis d'accord avec vous, j'ai regardé le match et je pensais à Xavier constamment. Et à la fin du match, je me suis dit, franchement, il y a quand même toutes les planètes qui sont en train de s'aligner pour les Parisiens. Ce qui s'est passé cet après-midi, c'est quand même un sacré coup de bambou derrière les têtes des joueurs de Dortmund. Et effectivement, moi je trouve que Paris est quand même... bien favori de cette double confrontation. Ils ont tout pour faire mal à Dortmund.
Alors, Özkan était titulaire avec Nmecha. On espère du côté de Terzic qu'il y ait le retour d'Emre Can et Sabitzer qui a été économisé aussi aujourd'hui, hein, qui n'est même pas rentré en jeu, qui pourrait aussi avoir son mot à dire, parce que Sabitzer, c'est quand même un joueur qui peut apporter quelque chose. Donc, oui. Mais défensivement, Hummels, Lauterbeck, c'est quand même...
Ouais, Hummels sorti sur blessure également, remplacé par Zoule, c'est garni. Ouais, le Parc des Princes.
La vitesse au rendez-vous.
L'entrée des deux équipes, on plonge le stade dans le noir. Baptiste Durieux, la musique, évidemment.
Et oui, le Phil Collins, c'est le stade qui s'éclaire à nouveau avec les deux équipes qui vont rentrer sur la pelouse. Marquinhos qui va guider les Parisiens et Sanganté du côté du Havre, qui va guider les Normands, match évidemment extrêmement important dans une ambiance de feu, et le speaker l'a bien rappelé, possibilité d'aller chercher un 12e titre ce soir de champion de France, qui serait évidemment absolument historique dans l'histoire du football français, dans l'histoire de la Ligue 1, avec cette composition qui est quand même ambitieuse de la part de Luis Enrique. C'est un turnover qui est intelligent, avec des cadres qui sont bien présents. On pense à Ousmane Dembélé, on pense évidemment à Bradley Barcola, aujourd'hui vraie révélation de cette saison. Néanmoins, Kylian Mbappé, rappelons-le, est sur le banc ce soir. Les joueurs qui se saluent tranquillement, les matchs qui va démarrer dans quelques secondes.
Pas de tifo particulier là pour cette soirée
Non, il n'y a pas de tifo particulier.
Non. C'est pas pour mercredi.
Oh, c'est un peu déçu. Bon, ils font des beaux tifos à Paris.
Non, oui,
franchement, ils ne peuvent pas non plus faire que ça. Ils ont des travails, ces gens.
Oui. Ils les coûtent cher, les petits.
Oui, alors après, ils sont souvent quand même aidés.
Subventionnés,
hein,
oui, mais.
Évidemment.
Mais bon, non, mais il faut du temps pour les préparer.
Voilà, ils ont fait des très belles choses en Ligue des Champions. Je pense que mercredi, ils vont encore concocter quelque chose d'original et de beau. Donc voilà.
On rappelle les compos, Baptiste, pour ceux qui nous rejoindraient pour le coup d'envoi de ce PSG Le Havre.
Exactement, à commencer par le Paris Saint-Germain, donc avec la spécificité, c'est Keylor Navas qui est titulaire dans les buts. Marquinhos et Danilo Pereira en charnière centrale avec Lucas Beraldo et Achraf Hakimi sur les côtés. Vitinha et Warren Zaïre-Emery titulaire au milieu de terrain avec Marco Asensio. Et puis en pointe, ce sera Ronald Kolo Muani qui sera entouré de Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola du côté du Havre. Arthur Desmas dans les buts. Gauthier, Loris, Johan Salmier et Sanganté en défense avec Loïc Nego et Christopher Opéry, Abdoulaye Touré et Targaline au milieu de terrain, Sabi Casimir en attaque avec André Ayou donc dans ce rôle de faux numéro 9, l'ancien Marseillais.
Allez, 25 secondes de publicité et on revient pour le coup d'envoi de ce PSG Le Havre dans RTL Foot. À tout de suite.
RTL Foot.
Bonjour, c'est Isabelle Langer.
On refait le sport sur RTL.
Demain, émission spéciale Ayrton Senna. 30 ans après sa mort, nous revivrons les dernières heures de la vie du pilote brésilien, à jamais icône de la Formule 1, avec Lionel Froissart, journaliste spécialiste de F1, proche de Senna et de sa famille, qui vient de publier L'icône immolée. Je vous donne rendez-vous demain, 19h15.
On refait le sport.
RTL Foot,
c'est jusqu'à 23h.
Présenté par Eric Silvestro.
Allez, dans deux petites minutes, le coup d'envoi de Paris Saint-Germain, Le Havre, le match du titre peut-être. Le temps pour nous et pour Xavier de vous donner tous les résultats de Ligue 2 ce soir. Saint-Etienne est désormais en position de monter directement en Ligue 1.
Ah bah c'est ce qu'on appelle une belle affaire hein, pour l'AS Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 grâce à un but de Mouefek face au Stade Malherbe Caen en début d'après-midi et qui prend du coup la deuxième place tranquillement avec 2 points d'avance sur Angers qui a été battu assez largement sur la pelouse du Paris FC il y a quelques instants. Score final 3-1 pour le PFC. Un but partout sinon entre l'AC Ajaccio et QRM, 0-0 entre Amiens et 3-2 pour Annecy face au Sporting Club de Bastia. Autre belle opération, celle de Rodez qui pourquoi pas peut encore s'inviter dans la course à la montée, qui est allé s'imposer 2-1 face à Concarneau. 2-1, c'est également le score entre Guingamp